1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
Dernier jour de trêve entre le Hamas et Israël ce samedi. Les négociations pour une deuxième phase n'ont toujours pas abouti. Le Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages israéliens captifs à Gaza. Seul un accord de cessez-le-feu ramènera les otages vivants, c'est le message envoyé. La Pologne solidaire avec l'Ukraine après l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le pays compte sur le parapluie américain pour assurer sa défense. Nous y reviendrons. Dans ce journal également, une récente enquête publiée par la BBC en Inde révèle que les crimes religieux de février 2020 n'ont pas été résolus. Et puis, Donald Trump veut faire de l'anglais la langue officielle des États-Unis. Vous avez les titres ? Bienvenue.
RFI.
Dernier jour de la première phase de trêve entre Israël et le Hamas ce samedi. Les négociations pour une deuxième phase se tiennent en ce moment au Caire. Pendant ce temps, l'ONU s'inquiète d'une reprise de la guerre. Cela serait catastrophique, insiste Antonio Guterres. Ces dernières heures, la branche armée du Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages israéliens captifs à Gaza. Seul un accord de cessez-le-feu ramènera les otages vivants. C'est le message envoyé aujourd'hui par la branche armée du Hamas. À Jérusalem, Oriane Verdier.
La vidéo met en scène les adieux des deux frères Horn. Yair a été libéré il y a 2 semaines alors que son petit frère Eitan est toujours détenu à Gaza. Après leurs embrassades, Eitan s'adresse face caméra aux autorités israéliennes. Il leur demande de signer la deuxième et la troisième phase de l'accord sans attendre. La famille d'Eitan Horn a rapidement autorisé la diffusion de cette vidéo et réagit via le forum des familles. « Nous avons le cœur brisé », affirme-t-elle dans un communiqué. « Nous demandons aux autorités de regarder Eitan dans les yeux. Ils n'ont plus beaucoup de temps. L'association des familles d'otages appelle les autorités israéliennes à tous les ramener en une seule fois dans la semaine à venir. Aujourd'hui, le Hamas a également réaffirmé sa volonté d'aller au bout des étapes restantes de l'accord de trêve devant mener à un cessez-le-feu, au retrait des forces israéliennes de Gaza et à la reconstruction. C'est justement ce retrait que refusent d'envisager les autorités israéliennes qui exigent une démilitarisation de la bande de Gaza. Elles demandent une prolongation de la première phase de l'accord afin d'obtenir de nouvelles libérations d'otages par groupe sans discuter de la fin de la guerre. Julien Boileau, Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
Ce samedi soir, le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé une proposition américaine d'étendre la trêve à Gaza pendant le Ramadan et la Pâque juive. Le parti des travailleurs du Kurdistan annonce un cessez-le-feu avec la Turquie, conséquence de l'appel de leur leader Abdullah Öcalan, qui avait demandé de déposer les armes et de dissoudre le mouvement ce jeudi. Recep Tayyip Erdogan jure de poursuivre les opérations anti-PKK si les promesses ne sont pas tenues. Le mouvement kurde réclame la libération de son fondateur âgé de 75 ans, condamné à vie et emprisonné depuis 26 ans sur une île au large d'Istanbul. En près de 4 décennies, le conflit a fait plus de 40 000 morts. En République démocratique du Congo, libération ce samedi soir à Kinshasa de l'opposant Seth Kikuni, le président du parti Piste pour l'émergence du Congo. Détenu depuis août 2024 dans la prison centrale de Makala et condamné à 1 an de prison, il est parmi les premiers bénéficiaires de la libéralisation conditionnelle en application de la grâce présidentielle. L'opposant Mick Mukebayi a également été libéré ce samedi soir. Il était en détention depuis près de 2 ans et condamné à 30 mois de prison pour propagation des faux bruits. Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue britannique Keir Starmer. Un accueil bien plus amical que celui de Donald Trump à la Maison-Blanche la veille. À la fois alliée indéfectible de Kiev et voisine de l'Ukraine, la Pologne est restée sidérée devant le volte-face des États-Unis. Elle qui a toujours entretenu une relation spéciale avec les Américains et qui compte sur le parapluie des États-Unis pour assurer sa défense. Les précisions à Varsovie de notre correspondant Adrien Sarla.
Cher Volodymyr Zelensky, chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls. Hier soir, le premier ministre polonais Donald Tusk a été l'un des premiers dirigeants européens à réagir sur X aux hostilités qui se sont déroulées dans le bureau ovale. À Varsovie, les propos du président Trump et de son vice-président J.D. Vance ont fait l'effet d'une douche froide, car c'est sur les États-Unis que la Pologne comptait pour assurer sa protection face à la Russie voisine, notamment à travers des gros contrats d'armement signés avec Washington ou encore les bases de l'OTAN situées sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères Radoslav Sikorski a assuré se tenir aux côtés des courageux guerriers ukrainiens qui défendent la liberté contre l'agression, l'invasion et le nihilisme. Depuis le début de l'invasion russe, Varsovie craint d'être la prochaine cible du Kremlin si Kiev venait à tomber. Alors les investissements militaires massifs de la Pologne ces trois dernières années pour créer l'armée la plus puissante d'Europe pourraient s'avérer salvateurs si les États-Unis mettaient leur menace à exécution en tournant définitivement le dos à l'Ukraine et à l'Europe. Adrien Sarlat, Varsovie. RFI.
Pendant la réunion entre Volodymyr Zelensky et Keir Starmer, Londres et Kiev ont signé un accord portant sur un prêt de 2,26 milliards de livres pour soutenir les capacités de défense ukrainiennes. Après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a rencontré ses deux homologues. Le président français a d'ailleurs relancé le débat sur l'idée très sensible d'un parapluie nucléaire européen. Une réponse au futur chancelier allemand Friedrich Merz qui a jugé nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario d'une OTAN dépourvue de la garantie de sécurité américaine. Les prisons françaises sont pleines à craquer. 81 599 détenus ont été recensés au 1er février. C'est un record. Il n'y a pourtant que 62 300 places opérationnelles. La surpopulation carcérale culminait donc à 130% le 1er février dernier. La Serbie continue de se soulever. Nouvelle manifestation étudiante ce samedi contre la corruption. Ils étaient des milliers rassemblés à Nice, dans le sud-est du pays. Les manifestations ont débuté après un dramatique accident dans une gare qui a fait 15 morts le 1er novembre dernier à Novi Sad, symbole de la corruption qui règne dans le pays pour de nombreux Serbes. Depuis des mois, le mouvement exerce une pression croissante sur le gouvernement serbe. Plusieurs hauts responsables ont démissionné, dont le Premier ministre Milos Vucevic. RFI 5h36 à New Delhi. En février 2020, les rues de la capitale indienne se transformaient en lieu de manifestations extrêmement violentes. Des affrontements religieux à la suite d'une loi controversée sur la citoyenneté. Une récente enquête publiée par la BBC en Inde révèle que les crimes n'ont pas été résolus. Correspondance Léa Ojal.
Les personnes impliquées n'ont toujours pas été jugées. C'est ce que révèle une enquête publiée par la BBC en Inde. 80% des affaires liées à la violence pour lesquelles les tribunaux ont rendu des décisions se sont soldées par des acquittements ou des relaxes. Et dans 62 des 758 affaires portant sur des accusations de meurtre, il n'y a eu qu'une seule condamnation et 4 acquittements. En février 2020, de terribles affrontements ont touché le nord-est de la capitale. À l'origine, un désaccord autour de la loi controversée sur la citoyenneté. Elle facilite l'obtention de la nationalité indienne pour les hindous, sikhs, bouddhistes, jaïns et chrétiens ayant fui l'Afghanistan, le Bangladesh et le Pakistan. Les musulmans, quant à eux, en sont exclus. Derrière cette loi se cache en fait un combat rangé entre nationalistes hindous et musulmans qui a donné lieu à ces émeutes meurtrières. Au total, plus de 50 personnes musulmanes, pour la plupart, ont été tuées lors de ces émeutes. Selon un rapport publié en 2024, en Inde, les appels à la haine contre les musulmans ont augmenté de 74%. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Un décret de plus de Donald Trump et pas des moindres, puisque la Maison Blanche a annoncé qu'elle allait faire de l'anglais la langue officielle des États-Unis. Concrètement, les agences fédérales n'auront plus l'obligation de fournir des services dans d'autres langues comme l'espagnol. Une occasion manquée pour l'essayiste Romuald Sura, qui regrette que l'anglais et l'espagnol ne soient pas reconnus ensemble.
Légiférer, comme le président Trump vient de le décider, et faire de l'anglais la langue officielle, c'est discutable. Cela aurait été une excellente chose de le faire dès le départ, de le faire encore dans les années 50, 60, voire 70. Cela aurait permis effectivement d'éviter une société éclatée qui est celle des États-Unis aujourd'hui. On ne parle plus d'une société multiculturelle heureuse, non pas simplement des quartiers, mais des villes entières. On bannit l'anglais de leur commerce, de leurs institutions, etc. Une très grande partie de la population américaine s'exprime essentiellement en espagnol. Si on voulait aller dans le sens de l'histoire, le plus courageux serait de légiférer, mais en faisant des États-Unis un État multilinguistique avec deux langues, comme cela est le cas au Canada, où d'ailleurs cela fonctionne très bien.
Autre annonce de l'administration Trump ce samedi, 3000 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Ils seront donc près de 9000 à lutter contre l'immigration clandestine, priorité de Donald Trump. Au premier jour de son retour au pouvoir, le président américain avait signé un décret déclarant l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.